fraîchement moulus. Chez Tinteco, l'art du café colombien, nous vous faisons voyager dans la cordillère des Andes. On vous propose du café responsable, issu du commerce direct, fraîchement torréfié, bien préparé et délicieux. Viens nous voir au 198 rue Hermine, quartier Saint-Sauveur, et rapporte du café en grains pour la maison.
Bonjour, ici Julianne Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 28 novembre 2025. Le syndicat de professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec constate que le gouvernement québécois demeure incapable de se positionner comme un employeur de choix, malgré les conventions collectives adoptées l'an dernier. Le SPGQ réagit ainsi à la publication du rapport sur la rémunération du personnel de l'État de l'Institut de la statistique du Québec. Selon ce rapport dévoilé hier, le personnel professionnel de l'État québécois subit un retard salarial de 8,2% par rapport au secteur privé et de 13,9% comparativement au secteur autre public, donc les universités, entreprises publiques, administrations fédérales et municipales. Pour Guillaume Bouvret, président du SPGQ, l'idée selon laquelle les professionnels de l'État sont gradures est un mythe. Le syndicat québécois des employés et employés de services se questionne sur la volonté du gouvernement d'interdire le port de signes religieux aux éducatrices des centres de la petite enfance. La présidente du syndicat, Sylvie Nelson, déplore que le projet de loi prévoyant cette interdiction, même s'il préserve les droits acquis pour les éducatrices en poste, fermera la profession à des milliers de femmes qui portent le voile. Pour elle, les femmes voilées ne font pas de prosélytisme auprès d'enfants de 6 mois à 5 ans. Elle les éduque et propose un projet pédagogique. Le Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec et Amnesty International invitent la population au lancement de la campagne « Écrire, ça libère », un lancement qui a lieu demain à la librairie Café Le Mot de passe, située au 1394 Chemin Sainte-Foy. Une lettre peut parfois changer une vie, c'est le principe fondateur d'Écrire, ça libère, la campagne mondiale de rédaction de lettres d'Amnesty International. Le lancement à Québec débute à 12h30 et sera suivi de la projection du court documentaire « Vécu au village de Chonwaro » de la réalisatrice Mouna Chabouni qui sera sur les lieux. La communauté métropolitaine de Québec annonce une hausse des titres métropolitains de transport à compter du 1er février 2026. Ces titres permettent aux usagers de se déplacer à moindre coût sur plus d'un réseau de transport collectif à travers la communauté métropolitaine de Québec. Malgré la hausse, le nouveau tarif permettra jusqu'à 42 % de rabais par rapport à l'achat de deux titres de réseaux locaux. Les titres métropolitains sont valides sur le réseau de transport de la capitale et celui de la Société de transport de Lévis, en plus de la Traverse Québec-Lévis. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Qu'y a-t-il dans la nature du luxe qui énerve et détruit les nations? Sommes-nous sûrs que nos propres vies ne recèlent rien de tel? Le philosophe est en avance sur son temps jusque dans sa vie matérielle. Il ne se nourrit, ne s'abrite, ne se vêt et ne se chauffe comme ses contemporains. Comment pourrait-on être philosophe et ne point entretenir sa chaleur vitale par de meilleures méthodes que les autres hommes? Lorsqu'un homme se chauffe par les diverses manières que j'ai évoquées, que peut-il vouloir d'autre? Certainement pas davantage de chaleur du même type, une nourriture plus copieuse et plus riche, une maison plus vaste et d'une splendeur encore plus ostensible, des vêtements plus fins et plus variés, des feux perpétuels plus nombreux et plus chauds, et ainsi de suite. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il faut pour couvrir ses besoins vitaux, un autre choix s'offre à lui que celui qui consiste à obtenir des choses superflues. Ce choix, c'est de s'aventurer maintenant dans la vie, car c'est de ce moment-là que commence sa vacance du labeur le plus humble.
Jardin de haricots, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du troc et me nourrir. J'ai de quoi pour passer l'hiver. J'ai du riz, de la mélasse, farine de seigle et de maïs. 22 sous pour le porc, 88 pour le froment. J'ai du sucre, du sel, des pommes séchées, un melon d'eau et des patates. En tout, j'en ai pour 8 $ et 60 sous. Oh, 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 simplifier, 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 oh, simplifier. Pêcher aux rivières qui veulent bien me donner, même la marmotte peut s'apprêter pour un souper. Et pour les ergoteurs invétérés, j'avoue qu'un bon dîner chez les amis est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Oh, 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 simplifier, 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 oh, simplifier. J'ai regardé dans ce pays ce que j'ai trouvé, m'a pas surpris. Résignation et calme désespoir. Trop de malheur, trop de couteaux, trop d'objets, de fardeaux. Trop de fiascos, de beaux habits, trop de travaux et de soucis. Trop de détails, de mesquinerie, futilité et vanité. Trop de magouilles, de façades, trop d'argent et trop d'enclos.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on va revenir sur le pape François qui est décédé là au mois d'avril dernier, parce qu'on va parler d'écologie, parce que les gens, c'était un peu connu, ou peu publicisé, disons-le comme ça. Le pape François avait choisi le nom François. Entre autres parce que François, c'est le patron des écologistes. Pas tout le monde sait ça, mais le Saint-François d'Assise, c'est le patron des écologistes et le pape avait choisi ce nom-là. On a beaucoup retenu l'idée de Saint-François parce que aussi c'était le pape, on disait le saint des pauvres qui s'occupait des il y avait une vision de la religion plus simple, plus proche des gens. Et il avait d'ailleurs été très critique à son époque, au Moyen-Âge, envers l'Église. Donc, c'était très audacieux que... D'ailleurs, c'est la première fois qu'un pape choisisse ce nom-là. Et on va avoir comme invité M. Stéphane Burgi, qui est docteur en études du religieux contemporain. Puis, il s'intéresse aux liens entre politique et religion. Puis il est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, puis il va venir nous parler de l'encyclique que le pape a écrit. C'était une sorte de manifeste, on pourrait dire une manifeste écologique que le pape avait produit il y a une dizaine d'années, qui est un texte qui mérite qu'on y prête attention. Alors, ce sera notre invité aujourd'hui, M. Burgi, que d'ailleurs j'ai rencontré au début du mois de novembre, qui est venu donner une conférence à Québec, à la belle église Saint-Dominique, là, sur la grande allée à côté du musée, sur justement là, l'encyclique du pape. Mais avant, là, quelques annonces, quelques lectures. Aujourd'hui, bien, comme vous le savez probablement, c'est le Vendredi fou. Mais nous, les Saint-Pistères, on fête pas le Vendredi fou. On parle de la journée sans achat. C'est organisé par l'organisme Adbuster qui parle de la Buying Day. Nous, on appelle ça la journée sans achat. Il y a des textes là-dessus aujourd'hui, justement. Des commerces québécois défient le Vendredi fou. En pleine période du Vendredi fou, impossible d'échapper aux promotions alléchantes qui envahissent les vitrines, nos réseaux sociaux ou notre boîte courriel. À contre-courant, certains commerces québécois résistent toutefois à cette frénésie, refusant de brader leur travail et d'encourager la surconsommation. Le Vendredi fou, c'est la démesure, c'est une stratégie marketing qui ne respecte ni les créateurs ni l'environnement. C'est contre nos valeurs, renchérit Coraline Bienvenue, chargée de communication pour la boutique Belle et Rebelle sur la Plaza Saint-Hubert. L'entreprise refuse systématiquement de proposer des rabais durant le Vendredi fou, estimant par ailleurs que ce serait un gros manque de respect envers les quelques 150 créateurs avec qui elle collabore. Dans le devoir aussi d'aujourd'hui, je vais revenir là-dessus. Il y a aussi un autre texte qui parle du Vendredi fou. C'est la chronique de José Blanchette. Elle parle du Vendredi noir. C'est plutôt un texte sur le suicide. C'est un texte qui est un peu noir, je dirais, un peu pessimiste. Elle parle ici d'un livre, Chatter, le neuroscientifique et expert mondial en régulation des émotions. Ethan Cross nous explique comment notre bavardage interne peut être à la fois salvateur et nocif. Nous pouvons créer un stress chronique, de l'inflammation, une dépression par nos simples pensées. Ses études à l'Université du Michigan et les conclusions concrètes que Cross en tire plairont à ceux qui ne sentent pas d'affinité avec la méditation. Les neuroscientifiques affirment que c'est parce qu'un peu plus tôt, elle disait que Mme Blanchet, qu'elle avait pratiqué la méditation pour sortir des idées noires là, qu'elle avait ces temps-ci. Ce scientifique-là, M. Cross, il dit « On peut aussi parler silencieusement à la deuxième personne en prononçant son prénom, voyager dans le temps pour relativiser ses problèmes dans l'avenir ou dans le passé des générations avant nous, établir des rituels précis, faire de l'ordre, cela augmente le sentiment de contrôle sur son environnement, aller dans la nature, toucher quelqu'un, bref, autant de moyens qui peuvent calmer les pensées anarchiques et obsédantes qui nous assaillent et que nous finissons parfois par confondre avec la réalité du moment. » Ça ressemble aussi à ce qu'on parle, nous, ici, quand on parle des exercices spirituels de Pierre Hadot. Les philosophes pratiquaient différentes façons, différentes méthodes pour bien vivre. Et une des pratiques des philosophes, c'est le regard d'en haut, moi, que j'aime bien, c'est prendre du recul, regarder notre vie comme étant un simple passage dans une infinité. Et regarder d'en haut. Les choses vont parfois mal, mais c'est toujours passager. On va toujours changer, passer à d'autres choses éventuellement. Alors ça, c'était dans le devoir d'aujourd'hui, Mme Blanchet. L'autre nouvelle, concernant la suite de la COP 30. Qui s'est terminé vendredi dernier. Puis là, on voit qu'il y a des changements majeurs qui s'opèrent au niveau des politiques climatiques. Puis à tel point que là, on sent que les gouvernements commencent à se retirer là, des, La lutte au changement climatique, au point que dans Le Devoir, aujourd'hui, on parle de Stephen Guilbeault qui claque la porte. Le libéral a quitté le cabinet Carney juste après la signature d'un protocole d'accord entre Ottawa et Alberta pour un projet d'oléoduc. Il y a un article justement dans Le Devoir d'aujourd'hui, la page A5. Le Canada laisse-t-il tomber sa lutte contre la crise climatique? L'industrie la plus polluante au pays pourra augmenter sa production d'énergie fossile et ses émissions de GES, même si les scientifiques répètent depuis plusieurs années que la sortie rapide des énergies fossiles est essentielle pour éviter le naufrage climatique de l'humanité. Le gouvernement Carney a choisi d'augmenter la production de pétrole et de gaz, de renoncer à plafonner les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie et de faciliter leur exportation. Le Canada a-t-il laissé tomber la lutte contre le dérèglement du climat? Oui, le Canada a abandonné la lutte contre le réchauffement de la planète, réponse en détour. Catherine Potvin, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'atténuation des changements climatiques et la forêt tropicale, est membre de l'Académie des sciences du Canada. C'est décevant de la part du gouvernement fédéral et c'est consternant parce que ce n'est pas soutenable pour l'avenir d'augmenter la production d'énergie fossile. C'est impossible, ajoute-t-elle. Madame Potvin rappelle d'ailleurs que l'ensemble de la communauté scientifique est formelle. Il est impossible de limiter le réchauffement planétaire à un seuil viable sans réduire rapidement notre dépendance à ces ressources qui produisent plus de 75 % des émissions mondiales de GES. D'ailleurs, je vais essayer, là, j'en ai parlé dernièrement, d'avoir un invité qui va venir nous faire un bilan du... Un bilan de la COP qui était présent à la COP là, et qui va nous faire un bilan. Là, ici, on a un petit bilan qui a été publié dans Le Devoir de lundi. Le Monde adopte un accord minimal sur la coopération pour le climat. Le texte final adopté samedi après de longues tractations ne comprend aucune mention explicite des énergies fossiles. Près de 200 pays réunis en Amazonie brésilienne ont adopté samedi à la COP30 un modeste consensus sur l'action climatique, sans plan de sortie des énergies fossiles. Un résultat décevant pour l'Europe, mais jugé prévisible dans une année bouleversée par les rivalités géopolitiques. Le Brésil, qui espérait un symbole en Amazonie, a réussi à montrer que la coopération climatique n'était pas morte alors que les batailles douanières et les guerres ont pris le pas politiquement sur le climat pour de nombreux gouvernements. Les États-Unis étaient les seuls grands pays absents à Belém. La communauté internationale avait le choix, continuer ou abandonner. Nous avons choisi la première option, a déclaré Luiz Inácio Lula da Silva depuis le G20 à Johannesburg, affirmant « la science a prévalu, le multilatéralisme, latéralisme a gagné ». Mais en tout cas, c'est à suivre. C'est un dossier qui évolue. Puis là, ben au Québec, c'est la même chose. On est dans la même tendance. C'était dans Le Devoir de mercredi. Québec exhorté à garder le cap sur l'ambition climatique. L'État québécois doit baser ses décisions sur des constats scientifiques, dit le comité consultatif du gouvernement, même si le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, laisse entendre que le Québec pourrait bien revoir à la baisse sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La protection des citoyens et l'économie de la province implique plutôt de garder le cap sur l'ambition climatique. C'est le message lancé mardi par le président du comité consultatif sur les changements climatiques, Alain Webster, dans le cadre des consultations publiques sur la cible québécoise des réductions de GES. Ce regroupement d'experts indépendants est chargé de conseiller le gouvernement quant à cette cible et il a récemment remis au ministre Drinville un avis sur la question, tout en répétant que la science climatique est très claire sur la nécessité de réduire rapidement les émissions de GES pour faire face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Monsieur Webster a souligné que le Québec a tout à gagner mais à maintenir ses objectifs climatiques. Et ce, malgré le contexte difficile provoqué par le gouvernement américain de Donald Trump, qui nie la réalité des dérèglements du climat. Bien, c'est ce qui est difficile avec ça, c'est que c'est variable, les effets, on les sent beaucoup plus à certains endroits, et tandis qu'au Québec, on le voit moins, mais on a quand même eu les feux de forêt là, et les inondations qui sont beaucoup plus fréquentes, mais il y a des îles, par exemple, dans le Pacifique, qui vont disparaître. Il y a en Inde que le climat se réchauffe tellement que ça ne serait plus viable. Alors, il faut poursuivre. Et comme je vous dis, je vais avoir un invité qui va nous faire un bilan là, d'où on en est. Et il nous avait dit l'année dernière quand même qu'on avait peut-être évité les scénarios de très grandes catastrophes, là, 3-4 degrés. Mais quand même, 2 degrés, ça impliquerait des changements énormes. Et c'est plutôt vers là qu'on s'en va. Donc, c'est un dossier à suivre. Puis finalement, dernier texte. Quand les coupes forestières priment sur la protection de la nature. Le projet de réserve de biodiversité Mekinac a été bloqué par des élus de la Mauricie avant même une consultation publique. C'était dans le Devoir d'hier. Des citoyens pressent le gouvernement Legault d'intervenir en faveur d'un projet de réserve de biodiversité qui a été développé en rapport avec l'appel à projet lancé par Québec, mais qui a été bloqué par les élus de la Mauricie avant même d'être soumis à une consultation publique. Ce territoire, choisi pour sa valeur écologique, est désormais menacé par des coupes forestières, constatait le Devoir. On veut protéger un territoire important en tenant compte des espèces qui y vivent. On ne peut pas être simplement mis de côté. Il faut une écoute pour ce genre de projet. C'est donc choquant de voir un blocage complet, résume l'actrice et dramaturge Christine Beaulieu, en parlant du projet de réserve de biodiversité Mekinac, un secteur de plus de 200 km² situé au nord de Trois-Rivières. Madame Beaulieu, qui publie jeudi sur les plateformes numériques du Devoir une lettre adressée au ministre de l'Environnement du Québec, Bernard Drinville, a décidé d'appuyer les citoyens qui portent le projet. Elle connaît bien la région pour y avoir passé une bonne partie de son enfance. Elle y retourne d'ailleurs régulièrement pour la beauté de la nature, sa famille possédant un chalet au lac du Missionnaire. Alors, on recule. On a de la difficulté à prendre conscience de la nécessité de protéger la nature, d'avoir une attitude, des valeurs qui sont respectueuses de la vie. Et on va justement en parler là, au retour de la pause musicale avec M. Burgi. Alors, une petite pause musicale, puis on revient sur le pape François. Thank you. Alors, M. Burgi, êtes-vous avec nous?
Oui, bonjour Jacques.
Bonjour, on va se tutoyer parce qu'on se
connaît. Oui, on s'est déjà parlé.
On se connaît un peu là, alors...
Exact.
Stéphane. Alors, c'est ça, comme je disais, je t'ai rencontré là, à Québec quand tu es venu faire une conférence que j'ai trouvée vraiment intéressante. T'as comme un peu, c'est plus une analyse un peu plus en profondeur de l'encyclique du pape, Laudato oui. Si. Le pape François qui est décédé malheureusement au mois d'avril dernier, symboliquement en plus, le 21 avril. Alors, dans le lendemain, c'est le 22 avril, qui est le jour de la Terre, on parlait du jour de la Terre, et en même temps, on parlait du pape François qui venait de décéder.
C'était
assez symbolique, spécial. Il n'y a pas de hasard, hein? Il y a des choses spéciales comme ça qui se passent.
Oui, tout à fait.
Alors, on va entrer dans le cœur du sujet. Comme je disais aux auditeurs, là, tu es docteur en études du religieux contemporain. Tu t'intéresses aux liens entre politique et religieux. Puis, tu es chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Puis, tu es aussi auteur de livres, La dérive conspirationniste chez Dovalis en 2023 et de Benoît XVI, La foi et la raison en 2025. Alors, en gros, là, pour nos auditeurs, peux-tu donner les éléments de base là, que tu nous as présentés à ta conférence sur l'encyclique du pape?
Oui. Bien, en gros, l'encyclique qui s'appelle Laudato Si, qui veut dire « Loué sois-tu » et qui reprend, dans le fond, les premiers mots là, d'un cantique là, qui est attribué, là, qui a été écrit par saint François d'Assise. C'est un texte qui, dans le fond, qui s'intitule donc Loué sois-tu sur la sauvegarde de la maison commune. J'ai bien aimé l'expression que tu as employée, Jacques, tout à l'heure. Tu as dit c'est un manifeste écologiste. C'est proche d'être ça, effectivement. C'est un texte d'un peu moins de 200 pages qui aborde donc la question de l'écologie avec évidemment une perspective de foi. Mais qui fait une très, très large place et qui commence même, qui commence avec un regard sur la question concrète, là, tu sais, ce qu'on observe, la perte de la biodiversité, les changements climatiques, etc., etc. Donc, qui part dans le fond d'un constat qui est celui qu'on peut tous faire, celui qui est celui du constat du consensus scientifique, mais qui va descendre très profondément dans l'analyse de ce constat-là et qui va évidemment amener ça sur le plan là, de la spiritualité et qui va questionner en profondeur notre rapport à la nature, notre rapport au monde extérieur, notre rapport à tous les êtres, à tout le vivant, hein, tout ce qui est en dehors de nous et qu'on a tendance à objectiver, à voir comme des choses, mais qui en fait sont porteurs de sens, sont porteurs d'une valeur. Et le pape François va littéralement là, en appeler à une révolution culturelle. Donc, c'est pas rien, c'est vraiment de dire qu'au-delà là, des solutions peut-être pragmatiques qu'on peut avoir dans la gestion de nos ressources, même si ça a son importance, il y a comme un autre niveau, si on veut, qui est beaucoup plus profond, qui est le rapport qu'on a chacun à la nature, au vivant. Et donc, dans ce sens-là, tout le texte du pape François est vraiment un appel à ce qu'il appelle là, une conversion écologique. Et dans le fond, c'est très intéressant parce que finalement, ce qu'on se rend compte quand on l'analyse en profondeur, c'est que cette conversion écologique, c'est pas une espèce d'ajout un peu secondaire à la posture de foi chrétienne. Pour le pape François, il va vraiment dire que ça fait partie même de la posture de foi, de fait de croire en Dieu, de fait de recevoir le monde comme un don et non pas comme un objet dont on peut disposer à notre guise, mais vraiment comme un don qui engage notre responsabilité. C'est pas quelque chose qui est secondaire, c'est quelque chose que toutes les personnes qui se disent croyantes, devraient pouvoir comprendre et devraient intégrer. Évidemment, le grand paradoxe de tout ça, c'est que l'accueil de ce message-là dans les milieux croyants a été, disons, mitigé et que parfois, dans les milieux écologistes, On a été des fois un peu plus attentifs même au message de François. On l'a salué, on l'a apprécié. Mais voilà, tout ça, tu sais, dans le fond, si on résume le propos du pape François, c'est vraiment de dire on a besoin, comme humanité, de revoir en profondeur notre rapport à la nature, notre rapport au vivant. Et c'est un appel donc à une conversion, je dirais, collective pour avoir un rapport de fraternité, évidemment, les uns avec les autres, mais aussi avec la nature qui nous entoure.
Bien, puis il avait suscité beaucoup d'espoir. Là, il y a un théologien que je connais, que j'avais lu, qui s'appelle Leonardo Boff. Et ça fait longtemps, ça doit faire une vingtaine d'années que j'avais lu ça. Mais lui, d'ailleurs, je pense qu'il avait été, je me demande s'il n'avait pas été excommunié parce qu'on le trouvait trop extrême. Mais lui, ça l'avait suscité beaucoup d'espoir chez lui, là, le fait qu'on ait un pape écologiste, puis il écrit un livre, là, comme François. Ben, c'est il y a une dizaine d'années que ça avait suscité beaucoup, beaucoup d'espoir.
Oui. En fait, puis c'est intéressant de souligner là, la provenance du pape François là, sur le plan intellectuel et culturel. Leonardo Boff là, que tu mentionnes, dans le fond, c'est un c'est effectivement là, il a pas nécessairement été excommunié, mais il a été mis sous sanction disciplinaire. En fait, l'histoire en arrière de ça, c'est que à partir de la fin du Concile Vatican II, il y a eu en Amérique latine un courant qu'on appelle la théologie de la libération. La théologie de la libération, dans le fond, là, c'est un courant qui prenait acte des profondes injustices sociales en Amérique latine, qui prenait acte des violences commises par les pouvoirs, la junte militaire et tout ça, contre les populations qui souhaitaient, elles, évidemment, se développer, revendiquer des droits et tout ça, marcher vers une plus grande égalité, un meilleur développement. Et la théologie de la libération a vu dans ce mouvement-là quelque chose de profondément évangélique. Il faut quand même rappeler que l'Amérique latine, c'est un continent qui, encore aujourd'hui, mais encore plus à l'époque, était profondément croyant. Donc, c'était des mouvements à la fois donc de libération, mais en même temps où la dimension de la foi était une référence majeure. Donc la théologie de la libération a dans le fond proposé de réfléchir la foi vraiment en lien avec le social. Il y a eu des théologies effectivement qui ont été mises à l'index, là, si on veut, par le Vatican. Ce qu'on craignait, il faut quand même rappeler le contexte géopolitique de l'époque, là, on craignait qu'il y ait une influence de Moscou derrière des mouvements qui pouvaient se rapprocher du marxisme. Tout ça est très complexe, et c'est vrai que le Vatican a parfois péché par excès de prudence en pilant sur... en étouffant certaines voix qui étaient vraiment intéressantes, dans le sens qui était porteur d'espoir énormément. Comme tu l'as dit, Jacques, là, j'ai écrit un livre sur Benoît XVI. Donc, j'ai étudié cette question-là. Je pense que c'est excessif de dire que, en fait, la théologie de la libération a été combattue par le Vatican, parce que finalement, il y a beaucoup d'éléments de la théologie de la libération, notamment l'option préférentielle pour les pauvres, la notion de structure de péché, donc l'idée que le péché, c'est quelque chose de systémique. L'oppression en tant que telle, l'oppression politique est aussi un péché, c'est pas juste la morale individuelle. Tout ça s'est retrouvé, en fait, dans le discours du Vatican. Mais si on clôt cette parenthèse-là, le pape François, lui, vient de ce contexte-là, vient de ce milieu-là. En Argentine, on parle de la théologie du peuple. C'est aussi un peu une sorte de pendant argentin de la théologie de la libération. Et on est très justement sensible à cette dimension d'émancipation, aussi ce rejet d'un système oppressif. Et ça, on le retrouve dans Laudato si. Et à tel point que certains vont même avoir analysé cet encyclique-là, là, ce texte-là, comme un texte antisystémique. C'est-à-dire que c'est un texte qui vient vraiment remettre en question des structures, cette fois mondiales, où c'est le capitalisme, la technique, le pouvoir de l'argent, le pouvoir du marché, le pouvoir du progrès d'une certaine idéologie du progrès là, qui vient, dans le fond, empêcher la prise de conscience écologique. Et donc, c'est un texte qui est assez décapant dans ce sens-là. C'est un texte qui est très critique de nos modes de vie, je dirais, consuméristes, là, et qui vraiment, là, c'est ça, je dirais, ces deux aspects-là sont très développés. D'un côté, une critique très incisive des structures économiques, technocratiques qui empêchent, dans le fond, qui bloquent une transition écologique, qui empêchent de reconnaître la valeur de la création, de protéger les ressources, de construire un avenir qui est habitable pour tous. Et d'un côté aussi, une profonde leçon spirituelle pour dire, ben, dans le fond, si ces structures-là existent, c'est aussi parce que, comme être humain, on les a idolâtrés. C'est-à-dire qu'il y a une question spirituelle très profonde derrière la question écologique, c'est finalement, à quoi est-ce qu'on accorde une valeur suprême? Devant quel Dieu, entre guillemets, hein, Dieu avec un petit D, puis peut-être avec un X à la fin, devant quel petit Dieu est-ce qu'on se plie quotidiennement dans nos choix de vie, dans nos choix au quotidien, et qui fait que tout ça mis ensemble crée un système qui nous empêche de construire un avenir écologiste, un avenir où la terre est respectée, mais aussi où les pauvres ont leur part de bonheur aussi, leur part de développement. Pour le pape François, les deux sont toujours liés, hein, le cri de la terre, le cri des pauvres. Donc c'est deux dimensions d'une même problématique, la question sociale et écologique pour lui. Finalement, la terre et les pauvres sont victimes d'une vision qui les instrumentalise, qui les réduit à l'état de choses qu'on peut exploiter pour le profit d'une minorité. Et donc, redonner leur dignité aux pauvres, reconnaître aussi les dommages faits à la terre, dans le fond, procède d'un même mouvement de conversion, là, de changement de paradigme.
Mais d'ailleurs, on a beaucoup identifié le pape François comme le pape social. On n'a pas retenu le côté écologique.
Oui, c'est possible qu'on ait davantage, c'est vrai, hein, qu'on a davantage mis l'accent sur le côté social. Puis c'est vrai qu'il a beaucoup parlé par rapport aux migrants, par rapport à la pauvreté, le chômage chez les jeunes. C'est vrai que lui-même a beaucoup investi là-dedans, mais c'est vrai que l'aspect écologique, on l'a peut-être moins retenu, puis... Tu le mentionnais en début d'émission, là, c'est vrai que le comment on dit ça, le mood, j'ai pas de meilleur mot, là, mais notre époque et la tendance de notre époque, malheureusement, là, avec toutes les tensions géopolitiques, n'est pas très favorable à une action concertée, collective, en faveur de l'écologie. Donc, c'est vrai que bon, c'est un cyclique-là qui a maintenant 10 ans cette année. C'est vrai qu'elle peut peut-être tomber dans l'oubli, là, ce qui serait vraiment très malheureux parce que c'est une très belle ressource.
Puis moi, je me demande, c'est que pour l'Église, c'est comme un peu dans sa voie naturelle, et j'ai rien contre ça, là, d'être à l'écoute des pauvres. Tu sais, c'est comme un peu... Mais le message écologique, il est beaucoup plus confrontant parce que là, on parle de changement de façon d'être. Et d'ailleurs, Saint François d'Assise, il parlait de les animaux, les êtres vivants, comme ses frères et ses sœurs. Il s'identifiait à la vie, il s'identifiait à la nature. Puis ça, je pense que l'Église, en tout cas, tu comprends très peu cette idée-là, là, de s'identifier à la vie, c'est un changement de paradigme majeur, là. Et changement de valeur, autrement dit, de plus voir la vie comme quelque chose d'extérieur, mais comme étant nous. Un peu comme ça rejoint un peu Spinoza, là, tu sais, l'espèce de... Le Dieu, lui, pour lui, Dieu, le Spinoza, il dit que Dieu, c'est la nature, c'est la vie.
Oui, oui.
Un Dieu panthéiste.
Un Dieu, oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que là, il y aurait des nuances théologiques à tout ça, mais c'est vrai que Alors, c'est paradoxal d'une certaine façon, parce que si on regarde l'Église dans ses pratiques telles qu'elle est vécue là, au Québec, c'est vrai que la question de l'écologie, elle semble toujours et encore aujourd'hui comme une sorte de sous-dossier. Comme si c'était quelque chose qu'on avait identifié à peut-être un certain militantisme social à la gauche, ou je sais pas trop, l'écologie, dans le fond, c'est aller faire des pancartes puis aller manifester. On le voit comme quelque chose, un sous-dossier politique dans lequel chacun a son opinion, puis bon, à la fin, toutes les opinions sont valables. Donc, c'est vrai que l'écologie a eu tendance à se ramasser dans cette catégorie-là. Maintenant, quand on regarde et quand on prend la peine de lire l'encyclique du pape François, puis qu'on regarde toutes ses références, ce qui est absolument frappant, c'est que, en fait, il va chercher dans les sources bibliques, il va chercher dans les sources traditionnelles, François en est une, mais pas uniquement François, comme si c'était un cas tout à fait isolé là, de l'histoire de l'Église. François est un représentant quand même d'une théologie médiévale qui... son cantique des créatures, par exemple, c'est pas une production isolée, hein, c'est une vision... du cosmos, de toute la création qui est fondamentalement relationnelle, qui fait que le soleil est mon frère, la terre est ma mère, l'eau est ma sœur, et donc il y a cette vision profondément relationnelle de la nature. L'être humain, il y a évidemment une place particulière, mais jamais une place en surplomb, un peu comme un espèce de despote là, qui pourrait décider entièrement là, ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas. L'être humain a une capacité spirituelle peut-être particulière, a un rôle particulier, mais il est comme toutes les créatures, il est une créature comme toutes les autres créatures, et il est un morceau important, mais un morceau d'une grande harmonie qui est cosmique. Et il a ce rôle, justement, si l'être humain a un rôle particulier, c'est un rôle de restauration des relations. Et donc là, on tombe dans une doctrine très traditionnelle du péché originel, mais qui est réinterprétée, et ça, le pape François nous l'explique bien, le péché, c'est une rupture de relation. Et donc, le rôle de l'être humain, comme être spirituel, c'est de renouer des relations rompues. Donc oui, la relation, bien entendu, avec Dieu, bien entendu, les relations avec des frères et sœurs en humanité, mais aussi, et par la même logique, la relation avec l'environnement, avec les créatures, qui sont elles aussi appelées qui elles aussi, dans le fond, souffrent de cette rupture de relation qui vient de l'orgueil humain, de la cupidité, de toutes ces tendances, finalement, à l'égocentrisme, à l'orgueil, etc. Et donc, tout ça participe du même mouvement. Et donc, quand François d'Assise parle du frère soleil, sœur lune, ou de la mère terre, il n'est pas un extraterrestre, là. Il est dans une certaine spiritualité qu'on retrouve chez d'autres au Moyen-Âge. Son successeur, Saint Bonaventure, on peut penser à la mystique de Hildegarde de Bingen. Oui. Il y a plusieurs, et donc c'est ça le paradoxe, c'est que dans le fond, si on veut vraiment regarder la tradition catholique profonde, il y a vraiment énormément de ressources théologiques, spirituelles, même doctrinales pour justifier ou pour convertir finalement l'attitude de certains croyants qui sont un peu indifférents à la question de l'écologie.
Puis, ben, tu sais, quand on parle de Saint-François d'Assise, au Moyen-Âge, j'ai l'impression qu'il y avait moins cette coupure-là. Les gens vivaient...
Oui, c'est très moderne, ça. C'est ouais, très moderne. Hein. Tu sais, bon, dans l'histoire de la philosophie, on parle souvent de Descartes ou comme ça, où on a vraiment créé une sorte de dualisme là, très, très net entre l'esprit et la matière. Hein. L'esprit qui est celui, finalement, l'esprit est... est l'entité qui donne du sens. Hein. La matière n'a pas de sens. La matière est une sorte d'étendue, là, que disait Descartes, puis une étendue, dans le fond, inerte. Comme s'il n'y avait pas de vie, comme s'il n'y avait rien, comme si tout était là, un peu à notre disposition, et que c'était vraiment l'esprit humain qui arrivait un peu comme un conquérant, mais comme celui qui impose, qui donne un sens, qui accorde ou non une valeur à telle chose selon ses propres objectifs, selon ses propres désirs, selon ses propres ambitions. Alors que pour la vision pré-moderne, médiévale, tout est vivant, tout est animé de quelque chose. On voit vraiment, tous les êtres ont un dynamisme qui leur est propre. Alors, dans la vision médiévale, tout ça est relié à Dieu. Hein, c'est comme une sorte de reflet de la bonté infinie de Dieu. Là. Il y a toutes sortes d'expressions comme ça. Mais dans le fond, ce que ça nous dit fondamentalement, c'est que le vivant, il a sa dignité propre. Il a sa valeur propre. Il a son sens propre. Et il n'est pas là, comme je dirais, à disposition, à attendre qu'on veuille bien le regarder et décider finalement ce qu'il a comme valeur ou comme non-valeur, toujours par rapport à nos propres critères de développement ou de ce qu'on considère comme étant le succès ou la richesse ou la prospérité ou le progrès. Et donc, c'est deux postures fondamentalement différentes. La posture du conquérant moderne puis la posture de beaucoup plus contemplative, hein, beaucoup plus contemplative qui est celle du Moyen Âge.
Ben, d'ailleurs, il en parle dans ce clic, la technocratie, on s'en rend pas compte. C'est le philosophe Jacques Ellul qui en a parlé beaucoup, la technocratie. C'est que la technologie, c'est pas seulement quelque chose qu'on utilise, mais c'est quelque chose qui nous change aussi.
C'est
et
ça, oui.
Ça nous déconnecte et on peut même remonter avec l'agriculture. C'est que pour les peuples chasseurs-cueilleurs, l'agriculture, c'était une espèce de sacrilège, hein, qu'on brisait la terre. Et déjà, il y a une première coupure qui s'est opérée là, entre l'homme et la nature avec l'agriculture. Fait qu'on remonte loin, là, on remonte au néolithique. Là. Et puis là, ben, ça s'en va en s'amplifiant avec avec l'intelligence artificielle. Là, la coupure est complète, là, je veux dire. Là, mais écoute, mais on approche de la fin de l'émission. Il nous reste encore 10-15 minutes. Je vais prendre une pause musicale. Pour retour, il va nous rester 5-6 minutes là, pour un peu là, ramasser nos idées, conclure un peu. Là,
parfait.
OK?
Thank you.
c'était Nathalie Choquette, son très bel album Eterna. C'est tiré de l'opéra de Verdi, Va Pensieri. On avait eu avant ça le groupe Naragonia de l'album Silensky. C'était Little T. Puis, en début d'émission, Richard Séguin, Simplifié. Alors, ça, que, comme je disais, quand on a eu l'agriculture, c'était en fait un geste de domination de la nature. Puis je pense que la coupure a commencé là. Puis même, on peut dire que la religion chrétienne, qui est comme un peu, il y a comme deux aspects. On le voit, un aspect plus profond, plus proche de quelque chose avec François d'Assise. Mais un autre aspect qui est la religion est issue de peuples d'agriculteurs. Alors, il y a beaucoup de références, entre autres, on voit ça dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, de domination de la nature. Là. Il y a comme ces deux faces-là qui sont présentes et c'est peut-être ça qui fait que le message du pape était mal compris. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, bien, j'irais pas jusqu'à... En tout cas, ce serait un gros débat, c'est une grosse question, tout ça. Le pape et la tradition catholique, je pense, revendiquent malgré tout, je pense, une certaine... Si on veut être honnête, là, elle revendique une certaine coupure. Mais une référence théologique là qui est vraiment importante pour le pape François, c'est Romano Guardini. C'est un théologien du début du 20e siècle, jusqu'à la moitié environ, là, écrit jusque dans les années 50 environ. Et lui, ce qu'il remarquait, c'était vraiment cette idée que, oui, l'être humain s'est en quelque sorte émancipé d'une certaine forme de fusion avec la nature, avec l'agriculture, avec le développement des techniques, etc. Mais il y avait jusqu'à la modernité, jusqu'à l'époque industrielle, une utilisation de la technique qui demeurait en harmonie avec les formes de la nature. Il prenait comme exemple l'architecture médiévale ou l'architecture des anciennes villes pré-modernes, pré-industrielles, qui suivent les courbes du relief, des montagnes, les sentiers qui sont sinueux, les vignes, par exemple, qui sont... il écrit de très belles lettres sur les bords du lac de Côme, par exemple, en Italie. Et c'est magnifique. Il voit l'architecture et il décrit ce paysage enchanteur en disant il y a une harmonie que l'être humain, malgré évidemment une certaine forme de coupure avec la nature, a quand même cherché à préserver. Il y a quelque chose d'organique. Et là, il y a quelque chose de... Il y a une autre coupure qui se produit avec l'ère industrielle où vraiment on n'est plus dans ce respect des formes. On devient cassant. Les angles droits, les usines, c'est l'efficacité, c'est la productivité. Et là, la nature devient complètement, disparaît complètement. Elle devient un réservoir de ressources, l'idée de respecter des formes, l'harmonie, le côté organique. Et ça devient quelque chose qui est aussi démesuré pour l'être humain. Et c'est là que c'est paradoxal, c'est que l'être humain se coupe, le coupe pour de bon, on peut dire, son rapport à la nature, mais crée aussi quelque chose qui le coupe de lui-même, d'une certaine manière. La cathédrale, si on prend Notre-Dame de Paris, ou des grandes cathédrales, Sainte-Anne-de-Beaupré, des grandes constructions qui sont des œuvres de la technique humaine, qui sont d'une certaine manière hors de la nature, mais en même temps, lorsqu'on y rentre, il y a quelque chose qui est à la mesure de l'être humain, qui, oui, élève l'âme, qui est beau, mais qui en même temps demeure fait pour l'être humain. Ce qui est tout le contraire d'espèces de grands projets, que ce soit industriel, ou on a parlé d'intelligence artificielle tantôt avec toi, Jacques. Là, on est complètement dépassé. C'est quelque chose qui va beaucoup trop vite, qu'on peut plus assimiler, et qui exerce un pouvoir sur nous. Et là, le pape met vraiment le doigt là-dessus, cette idée qu'on est dans une technocratie où la technique n'est pas du tout neutre, mais au contraire, elle est tellement puissante, rapide, efficace, qu'elle exerce son pouvoir sur nous et que, d'une certaine façon, si on n'y réfléchit pas, on a tendance à se plier aux exigences des outils qu'on a créés nous-mêmes. Et donc ça, c'est vraiment une des analyses que fait François. Et je sais pas si on peut continuer puis là-dedans, mais la porte de sortie que propose François passe par une redécouverte d'une posture de contemplation. La beauté, là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup insisté là, quand j'ai donné ma conférence. La beauté est vraiment une porte de sortie pour sortir d'une espèce de logique utilitaire qui ne voit dans les choses, dans les êtres, dans le vivant, que des outils, que des objets. Donc le beau, c'est quelque chose qui est nécessairement gratuit, qui, de façon littérale, ne sert à rien. Et donc François est dans cette logique-là, dans cette approche-là, pour dire, ben, au-delà de notre pouvoir de citoyens, là, de peser sur les choix des gouvernements. Bon, tout ça peut nous sembler très pessimiste là, avec le climat un peu morose qu'on a aujourd'hui par rapport à l'écologie, mais plus existentiellement, plus profondément, on est chacun capable de cultiver, c'est ça, ce rapport à la beauté qui devient une porte d'entrée pour découvrir le vivant, pour découvrir le la vie autour de nous, le sens de la vie, la valeur des êtres.
Mais Stéphane, on est malheureusement rendu à la fin. Je trouve qu'on termine bien, par contre.
Ben
on
voilà,
termine avec une belle conclusion.
Retour à la contemplation, effectivement.
Voilà. Et alors, je rappelle aux auditeurs que mon invité, c'était Stéphane Burgy, qui est docteur du religieux contemporain, puis s'intéresse au lien entre la politique et la religion, puis est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Puis, si vous êtes intéressé, il a publié deux livres. Il y en a un qui c'est La dérive conspirationniste. Ça m'intéresse particulièrement, mais ça, peut-être une autre fois, pour une autre fois. Puis aussi, de Benoît XVI, La foi et la raison. Alors, écoute, je te remercie beaucoup, Stéphane.
Merci, Jacques, pour l'invitation.
Bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Mes offres pop du Vendredi fou sont à la SAQ. C'est l'occasion de profiter de grandes économies en combinant nos rabais circulaires à vos offres personnalisées Inspire. Autrement dit, mes offres pop, c'est des prix pas pires pas en tout sur plein de produits puis un paquet de points Inspire en plus. Ouh! Mais faites vite, c'est pop pour longtemps. Découvrez vos offres pop sur l'appli SAQ, dans l'infolettre ou avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, détails dans saq.com.
Salut, c'est François Laplace, Boutique Gourmande. Tu veux faire une différence dans le quartier? Ben nous, on embarque avec toi. Comment? Si tu achètes une carte cadeau de 20 $ nous, on va la bonifier en ajoutant 5 cafés. Comme ça, tu peux l'offrir à quelqu'un de la rue et vraiment faire une différence, et ça, dans la dignité. Pas